Question dit histoire.
Bienvenue sur RDIWA 107.5 www.rdiwa.fr. À l'occasion de la rencontre entre Anaëlle et Quentin du musée de Die et des élèves de CM2 de la classe de Monsieur Pirug de l'école Chabestan, nous allons vous présenter une émission autour de l'histoire du Diwa. Aujourd'hui, nous allons poser des questions sur notre thème, le combat à travers les âges. Avec mes partenaires, Timothée, c'est moi, Valentin,
bonjour,
Jean-Lucas,
yo,
Dylan,
ouais,
Rami,
ouais.
Nous allons poser des questions que nous nous sommes posées. Bonjour, je m'appelle Timothée, j'ai 10 ans et demi et je vais poser une question. Est-ce qu'il y avait des gladiateurs à Die?
Des gladiateurs à Die, Timothée, oui, il y en a eu. Tu as peut-être vu au musée une stèle funéraire, c'est-à-dire une grande pierre qu'on mettait verticale sur la tombe d'un personnage. Et sur cette stèle, on a le nom du personnage en question, il s'appelait Sylvain. Et Sylvain était sécutor. Alors le sécutor, c'est un gladiateur et c'est celui qu'en général on oppose au rétière. Le rétière est beaucoup plus connu que le sécutor parce qu'il a un armement qui est un peu spécial. Il se bat avec un trident, avec une sorte de grosse fourchette avec des dents pointues, et avec un filet dans lequel il essaye d'emprisonner l'adversaire pour pouvoir ensuite le clouer au sol. Donc le sécutor, lui, se bat avec une petite épée, un petit bouclier, une grosse protection sur l'épaule, ce qui fait qu'en effet, on ne peut pas le frapper au cou ou à la tête sur sa gauche, mais en même temps, quand il regarde sur sa gauche, il n'y voit rien. C'est ça qui rend le combat intéressant, c'est qu'il faut qu'il y ait des avantages et des inconvénients pour les deux adversaires. Donc au moins celui-là, on est sûr qu'il est mort à Die, et il est probablement mort en tant que gladiateur, ce qui sous-entend qu'il y avait des spectacles de gladiateurs à Die. On a d'autres indices pour dire qu'il y a eu un édifice de spectacle à Die. Le gros problème, et c'est vraiment dommage, c'est que jusqu'à présent, on n'a trouvé ni l'emplacement de cet édifice de spectacle, ni une seule pierre ou un seul élément architectural qui puisse nous indiquer si on avait un théâtre ou un amphithéâtre ou autre chose. Mais de toute façon, oui, il y a eu des gladiateurs à Die qui se sont battus entre eux, qui se sont aussi battus avec des animaux, puisqu'il y avait un groupe de chasseurs spécialisés qui étaient chargés de ramener des animaux dans l'arène, donc sur le lieu de combat, pour que les hommes et les animaux puissent aussi se battre ensemble.
Bonjour, je m'appelle Valentin, j'ai 10 ans et demi. Comment a été protégée la ville de Die au cours de l'histoire?
Alors ça, c'est une bonne question, Valentin. La ville de Die a été protégée, évidemment. Enfin, la réponse est à peu près évidente pour tout le monde. La ville de Die a été protégée par un rempart. Alors pourquoi mettre un rempart autour de la ville de Die? Et surtout, est-ce qu'il y avait vraiment besoin de la protéger? Alors à l'époque romaine, en tout cas au début de l'époque romaine, rapidement, les Gaulois qui jusque-là étaient indépendants sont vaincus par les Romains et décident d'adopter les modes de vie romains. Donc, à quelques émeutes près, il y a quelques petits soulèvements, mais grosso modo, les choses se passent finalement assez bien. Et du coup, la Gaule, c'est-à-dire toute la France actuelle, même un petit peu plus large, est une zone démilitarisée, puisqu'on préfère garder les légionnaires sur les frontières. Donc sur le Rhin, entre la Gaule et la Germanie, on va dire entre la France et l'Allemagne pour aller plus vite, et puis aussi sur les frontières orientales, c'est-à-dire entre la Syrie, l'Irak et l'Iran, qui est aussi une frontière de l'Empire romain, et puis les frontières du Sud, c'est-à-dire des petits fortins qui sont installés dans le Sahara. Pour la ville de Die, dans ces conditions-là, il n'y a pas besoin de la protéger, parce qu'il n'y a personne contre qui la protéger. Et puis dans le courant du IIIe siècle, il se passe beaucoup de choses. Et justement, on a ces fameux Germains qui franchissent le Rhin et qui viennent un peu semer la désolation en Gaule. Ça provoque quelques problèmes, surtout psychologiques, manifestement, pour ce qui nous concerne, nous, directement, à Die. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va installer un rempart autour de la ville. Éventuellement pour la protéger si les invasions nous touchent directement, mais aussi parce que le rempart est un symbole de puissance. Avec un rempart, c'est d'abord le premier et le plus important des monuments urbains, avec un rempart, on marque bien la différence entre ce qu'est une ville, la chose la plus importante dans la civilisation romaine, et ce qu'est la campagne, c'est-à-dire ce qui se passe autour. Et ce rempart marque bien l'importance de la ville. Donc le rempart, c'est à la fois pour se protéger contre une menace extérieure, mais c'est aussi pour affirmer la puissance de la ville. Et il faut, quand on regarde le rempart de Die, il faut voir les deux symboles à la fois. Alors ça, c'est un petit historique des remparts au début, l'installation à l'époque romaine. Et puis, une fois que les remparts sont là, bah, évidemment, on va continuer à s'en servir. Et à la fin de l'époque romaine, les remparts ont certainement servi, puisqu'on sait que, notamment au 8e siècle, on a des gens qui débarquent d'Italie du Nord, des Lombards, et qui vont, les textes nous disent qu'ils mettent le siège devant Valence et qu'ils sont passés par la vallée de la Drôme et par Die. Donc je suppose qu'à Die, donc, ils ont dû faire une petite étape, donc il a dû se passer quelque chose quand même. Et là, on pense que les remparts ont dû servir. Et puis après, au Moyen-Âge, évidemment, les remparts continuent à servir. Alors le Moyen-Âge est une période un petit peu plus complexe, puisqu'il y a plusieurs... on n'est plus dans un empire uni avec un seul patron. Là, il y a plusieurs chefs locaux qui, éventuellement, vont se faire des guerres très locales. Donc là, le rempart va certainement aussi avoir son utilité pour en arriver, évidemment, à l'époque moderne, c'est-à-dire surtout les guerres de religion. Dans guerre de religion, il y a guerre. Et on sait qu'il y a un certain nombre de fois où les protestants ou les catholiques ont mis le siège devant Die, c'est-à-dire qu'ils ont assiégé la ville. Et donc la ville était protégée par son rempart. Alors... À cette époque moderne, on a une autre conception du rempart, parce que l'armement a évolué, introduction du canon, de la poudre à canon, etc. Et on va construire ce qu'on appelle des bastions. Alors les bastions, vous avez peut-être en tête les châteaux refaits par Vauban. Un bastion, c'est une sorte de pointe qui sort du rempart, enfin une grosse pointe, c'est un gros triangle en élévation. Et qui permet de casser un petit peu les assauts qui peuvent être donnés contre le rempart, et surtout éventuellement qui peut servir à dévier les boulets qu'on lance sur le rempart avec des canons, et qui pourraient casser la maçonnerie. Donc il y a eu des bastions à Die, on en a une toute petite trace à côté de l'office du tourisme, et puis surtout sur les photos aériennes, Google Maps ou Géoportail, on voit la trace des fossés qui étaient en avant des bastions sur le plateau de la citadelle, du côté extérieur des remparts. Voilà. Et puis on arrive ensuite au XVIIIe et XIXe siècle, où le rempart ne sert plus qu'à une chose, c'est à empêcher que les gens rentrent en ville par n'importe quel côté, parce que quand on rentrait en ville pour le marché, on devait payer une taxe. Alors là, c'était important de maintenir le mur, et à partir du moment où la taxe n'a plus été appliquée, là, les remparts n'avaient plus du tout d'utilité, donc on a commencé à en détruire une bonne partie avant de s'apercevoir que ça serait une bonne idée de les conserver, parce que les villes qui ont conservé leurs remparts sont rares et que c'est un élément du patrimoine qui est important.
Michael Jackson, Billie Jean.
Thank you.
De quoi étaient équipés les gardes dits à l'époque des Romains et comment combattaient-ils ?
Alors Jean-Lucas, c'est une très bonne question. Simplement parce que, comme j'ai expliqué très brièvement tout à l'heure, la Gaule est démilitarisée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de soldats. On a un rempart, mais on n'a pas de soldats, en tout cas, à cette époque. Par contre, on a ce qu'on appelle les cohortes urbaines ou les milices urbaines. Ça existe évidemment à Rome, et ça existe probablement dans les autres villes. C'est-à-dire que c'est plutôt une sorte de police municipale. On pourrait penser ça. Quel est leur équipement ? C'est une vraie question. C'est-à-dire que, j'ai quelques idées sur la question, mais on n'a rien au musée ou on n'a rien trouvé qui puisse nous le dire. Alors, c'est certainement des gens qui sont équipés d'une armure de cuir, un casque, un glaive à la romaine, quoi, un truc classique, éventuellement un bouclier. Et encore, c'est même pas sûr pour les cohortes urbaines. Et puis, évidemment, le pilum ou le javelot, parce que ça fait partie des insignes, des armes les préférées des soldats. À quoi il ressemblait, on n'en sait pas vraiment plus. Il est certain qu'il a dû y avoir une police municipale. On a même dans une inscription de Vaison-la-Romaine, donc c'est pas dit, mais c'est le même territoire au début de l'époque romaine, une inscription qui nous parle d'un préfet, donc un haut fonctionnaire, qui est chargé de la protection des biens et des personnes, donc une sorte de préfet de police qui existait sur le territoire des Vaucances. Et qui dit préfet de police, dit police. Qui dit police, dit fonctionnaire avec un armement. Donc il y en avait forcément, mais leur armement n'est pas revenu jusqu'à nous.
Bonjour, je m'appelle Dylan, j'ai 11 ans. Comment étaient les cavaliers à l'époque des croisades ?
Alors bonjour Dylan. Alors à l'époque des croisades, on est donc au Moyen-Âge. On appelle ça le Moyen-Âge un peu classique. La première croisade, c'est entre 1090 et 1095 à peu près. Je ne me souviens plus la date exacte. À cette époque-là, les seules personnes qui peuvent participer à une guerre en cavalier sont des nobles. Simplement, c'est forcément des gens riches parce qu'il faut se payer un cheval, il faut se payer une cotte de maille. Il faut se payer un casque, on appelle ça un home, c'est une sorte de casque qui enveloppe toute la tête. Il faut se payer tout un équipement qui coûte très cher. Vous avez peut-être vu au musée, il y a quelques restes de cottes de mailles. C'est des tout petits anneaux qui sont tous rivetés. C'est-à-dire que chaque anneau a un trou à chaque extrémité. Et on va enfoncer une petite baguette de métal dans le trou et qu'on va fixer en tapant dessus au marteau. Donc pour chaque anneau, on a un rivet, c'est un travail énorme, ça coûte extrêmement cher. Donc déjà, on a ces aristocrates qui peuvent se payer cet harnachement et qui partent à cheval. Alors après, les croisés, c'est pas seulement les aristocrates, il y a aussi des hommes de troupe qui, eux, ont soit un armement qu'ils ont récupéré sur les champs de bataille quand ils s'en sont sortis, soit un armement qui leur a été confié par des chefs de guerre qui sont plutôt riches. En l'occurrence, ce qui permet de les différencier, c'est souvent qu'ils mettent une croix quelque part sur leur équipement pour bien dire qu'ils sont des croisés, c'est-à-dire qu'ils sont partis pour faire la guerre sainte, pour essayer de reprendre ou de conserver Jérusalem contre les opposants de l'époque, c'est-à-dire toute la civilisation islamique qui essayait de s'installer dans ces coins-là, ou en tout cas de se maintenir dans ces coins-là. De toute façon, il y a eu un chassé-croisé sur la Palestine et sur tout le bassin méditerranéen entre croisés et musulmans pendant toute cette période. Voilà. Et les croisés se reconnaissaient entre eux par le fait qu'ils avaient une croix sur leur équipement, puisque les musulmans ne portent pas de croix, mais plutôt des croissants.
Bonjour, je m'appelle Rami, j'ai 11 ans et ma question est comment s'était passée la Première Guerre mondiale à Die ?
Alors Rami, la Première Guerre mondiale à Die s'est passée comme un petit peu partout en France, là où il n'y a pas eu de combat, puisque cette Première Guerre mondiale se passe surtout pour ce qui nous concerne sur les fronts orientaux, c'est-à-dire le front entre la frontière entre la France et l'Allemagne. L'Allemagne va envahir une bonne partie de la France au moment de la Première Guerre mondiale, une bonne partie du Nord-Est. Et les militaires sont envoyés là-bas. En revanche, à l'arrière du front, enfin on appelle ça l'arrière, c'est-à-dire dans le reste du territoire, il va se produire plusieurs choses. Bah, d'une part, il va y avoir, comme dans toutes les guerres, des restrictions, parce qu'une guerre coûte énormément cher. Il faut nourrir tout un tas de gens qui sont sur le front et dont le travail constitue à essayer de protéger les frontières, à essayer de regagner du terrain, mais qui ne travaillent plus dans le commerce, dans l'industrie, qui ne font plus fonctionner le pays économiquement. Donc du coup, il y a une force de travail en moins et il y a des bouches à nourrir en plus. Ce qui fait qu'il y a des restrictions alimentaires, il y a des restrictions de matériel. À l'arrière, on va aussi réquisitionner des chevaux, des bœufs, des moutons pour la viande, etc. Il y a énormément de réquisitions. Économiquement, c'est très très dur. Et puis sur dit, il y a une petite particularité qu'on peut avoir ailleurs, mais dit accueille deux hôpitaux de campagne, deux hôpitaux d'arrière. Donc l'hôpital de dit, le même qu'à l'heure actuelle, qui accueille un hôpital militaire français. Donc c'est là que les blessés sont envoyés pour être soignés ou en convalescence avant de repartir au front. Et la particularité de Die, c'est qu'on a aussi un hôpital anglais qui s'installe au domaine du Martouret et qui va avoir le même fonctionnement, mais pour les Anglais, puisque les Anglais ont participé à la Première Guerre mondiale en France, aux côtés des Français. Et il était donc naturel que certaines villes françaises accueille des hôpitaux anglais pour soigner ces soldats qui se battaient surtout pour nous. Voilà. Donc une période là aussi assez difficile et qui se termine par d'autres périodes tout aussi difficiles parce qu'il y a eu énormément de morts pendant cette Première Guerre mondiale. Les Européens se sont tués les uns les autres de façon assez atroce. Et ensuite, il a fallu reconstruire le pays économiquement avec beaucoup de gens qui soit étaient morts, soit étaient blessés, il leur manquait un bras, une jambe, un œil, etc. Et donc des grandes difficultés pour remettre l'économie en marche et pour remettre le pays en fonctionnement. Voilà. Mais sur l'arrière, les faits les plus marquants en ce qui nous concerne, c'est probablement ces deux hôpitaux de campagne, un français, un anglais. Et d'ailleurs, à la fin de la guerre, les Anglais ont offert à la ville de Die un drapeau anglais pour la remercier d'avoir accueilli un hôpital de campagne anglais pendant la guerre.
RD1, radio n'importe quoi. They said many are called, a few were chosen, but I wish some wasn't chosen. But the blood spilling of Rwanda, they said me shocking up in they go. Thrown in the fire, but you never get burned. But I wish some didn't get burned in Rwanda, They said the man is judged according to his works. So tell me, Africa, what's your worth? There's no money, no diamonds, no fortunes on this planet that can replace Rwanda. Rwanda, Rwanda. Yeah. These are the cries of the children. Anybody hear my cry? America. It's the United States of America. Then why can't Africa be the United States of Africa? Rwanda, Rwanda. And if England is the United Kingdom, then why can't Africa unite all the kingdoms and become the United Kingdom of Africa? Rwanda, Rwanda. Rwanda, Rwanda. Yeah. These are the cries of the children. Yeah. Can anybody out there hear our cries? Yeah. Heaven's cries.